Chapitre 13e. Bouche d'or. La conversation fut interrompue par le retour des servantes d'Olympia. Elles étaient toutes très agitées, et celles qui avaient le droit de l'approcher à toute heure se montrèrent sur la terrasse où elles se trouvaient encore avec Thaïs. « Qu'y a-t-il, Elpis, Théon, que vous est-il arrivé ?» demanda Olympia, étonnée. « Oh, madame, excusez-nous, » dit Elpis, « nous avons vu du merveilleux. Permettez-vous que nous le racontions ?» Olympia interrogea Thaïs du regard. « Certainement, » fit celle-ci. « Je suis déjà toute impatiente. « Venez donc au salon, » dit Olympia en riant, « sur un bon lit de repos. Vous pourrez suivre plus agréablement le récit, n'est-il pas vrai ?»« Oh, bonne âme !» répondit Thaïs d'un ton touché. « Vous connaissez bien les aises de la vie et cependant, vous voulez refuser. Comme vous êtes pâle. Ne voulez-vous pas un peu de phare? Seulement une légère touche. Ah, vous n'avez certainement pas de phare. Et j'oubliais que personne ne vous voit, si ce n'est vos femmes de chambre et vos malades. » D'un air compatissant, et avec la satisfaction intérieure qu'elle-même ne pourrait être l'objet d'un semblable sentiment de compassion, Thaïs s'étendit sur une chaise longue. « Allons, Elpis, allons, Théon, qui de vous prend la parole? Dites-nous cette histoire merveilleuse. L'empereur a-t-il remporté la victoire sur les Goths? Non, noble dame. C'est d'une autre victoire que nous avons été témoins, dit Théon. En nous rendant à Sainte-Sophie pour entendre la messe, dit Elpis, nous vîmes une foule compacte et serrée comme au jour de Pâques, mais pas aussi recueillie. C'était une agitation, un tumulte, des cris, tels que nous en étions toutes saisies. Nous fûmes bien aises de pouvoir arriver par une porte latérale à une place qui est réservée aux diaconesses et où la noble Pentadienne nous admet toujours. Jamais nous n'aurions vu par le grand portail pénétrer dans la basilique tant il y avait de monde autour de cette entrée. Mais dans l'intérieur, la foule était immobile, serrée, compacte, et les milliers de têtes qui dominaient la masse ne remuaient que les yeux. Un silence profond régnait dans l'assemblée, et ce silence n'était pas celui du recueillement, car on ne paraissait guère occupé à prier. Je hasardais quelques regards timides autour de moi. Le saint sacrifice n'avait pas encore commencé, et que vis-je? Le consul Eutrope à côté de l'autel s'accrochant à une colonne. « Lui, dans l'asile de l'église. Lui, votre persécuteur, oh madame, tombé dans la disgrâce. Lui, qui vous avez interdit la maison de Dieu, obligé de s'y réfugier? Et dans quel état digne de pitié? J'étais tout hors de moi, et ne savais si je devais me réjouir ou m'effrayer de ce changement, de cette chute, de ce spectacle. Bientôt parut le saint patriarche. Il monta en chaire et commença à parler au peuple. Oh, madame, si vous l'aviez entendu, je ne saurais redire ces paroles, et quand je le pourrais, le ton, le geste, l'expression, toute son âme, en un mot me ferait toujours défaut. « Oh, vanité des vanités » s'est-il écrié, « tout est vanité !» Il a parlé sur ce sujet. Il a développé, avec les brillantes couleurs de sa rare éloquence, cette thèse toujours vraie, toujours pleine d'enseignements. Et en ce moment, à la vue de celui qui faisait une épreuve si terrible de l'inconstance des vanités humaines, et nous la rendait vivante et saisissable, en ce moment, ses paroles nous pénétraient jusqu'à la moelle des os. Et quand, apostrophant Eutrope, il lui demanda où étaient ses flatteurs, où était le peuple qu'il avait acclamé au théâtre et au cirque, alors qu'il dépensait des sommes énormes pour les courses et les spectacles? Quand il dit que ce même peuple s'était changé en une armée d'ennemis avide de vengeance, altéré de son sang, et que seule la Sainte Église qu'il avait foulée aux pieds l'accueillit avec charité, alors, ô madame, il m'a été impossible de retenir mes larmes, et beaucoup d'autres ont pleuré comme moi. L'émotion gagnait tous les assistants. Le patriarche continua. Intrépide dans sa miséricorde, l'Église s'interpose entre les méfaits du malheureux et la colère de l'empereur, corroborée de la haine du peuple, et elle leur demande de ne pas donner carrière à la fureur et à la vengeance, de ne pas souiller, par une effusion de sang, la légitime horreur qu'inspire tant d'iniquité. Ensuite, le saint sacrifice fut offert pour les pécheurs comme pour les justes. Alors celui qui disait du fond du cœur, « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Celui-là ne pouvait plus songer à priver le malheureux réfugié de son asile et le livrer au tourment et à la mort. À ce moment, une grande agitation intérieure se manifesta dans l'assistance. Les uns soupiraient, les autres pleuraient tout bas ou même tout haut. Un grand nombre sortirent de l'église, un grand nombre tombèrent à genoux et prièrent avec foi. Les sentiments de haine et de vengeance avaient disparu. Les esprits étaient adoucis. Des regards de compassion tombaient seuls sur le misérable qui restait toujours suspendu entre la crainte et l'espérance. Et le saint sacrifice, s'élevant jusqu'au trône de la miséricorde éternelle, au milieu des souffrances de cette terre, en fit descendre sur nos cœurs la douce rosée de la grâce céleste. « Je pensais à vous, madame. Je pensais que vous pardonneriez de toute votre âme à votre persécuteur. » « Oui, bonne Elpis, de toute mon âme, » dit Olympia. « Et ensuite, qu'est-il arrivé ?» demanda Thaïs. « Il est pourtant impossible que Trope reste toute sa vie auprès de l'autel de Sainte-Sophie. » « S'il est dans l'asile de l'église, » répondit Olympia, « on trouvera facilement dans son enceinte une petite chambre pour le loger. » Comme Pentadia chercha un refuge contre les persécutions de Trope, elle s'abrita d'abord auprès de l'autel et s'attacha à cette même colonne, touchant emblème de la protection pour le malheur. Dans la suite, elle habita une petite cellule près du quartier où les diaconesses instruisent les catuches humaines de leur sexe et les préparent au baptême. Là, une des diaconesses lui procurait tout ce qui lui était nécessaire. Quelque chose de semblable se fera pour Eutrope. C'était un spectacle émouvant, dit Théon, de voir la noble Pentadia assise, non loin de son persécuteur, et en apparence froide et insensible comme une statue de marbre. Mais de temps en temps, de grosses larmes tombaient de ses paupières. Seulement, quand le patriarche prononça ces mots « Pardonnez-nous nos offenses », elle remua silencieusement les lèvres, comme pour faire avec lui cette prière. Si Eutrope avait pu la voir, il aurait été obligé de se confondre en remords et en repentir. « Bonne fille, » dit Thaïs, « Eutrope a tant de choses sur la conscience qu'il ne peut guère s'abandonner au repentir pour une mauvaise action. Mais je ne puis m'imaginer qu'il reste tranquillement, comme Pentadia, plusieurs mois dans l'asile de l'église. » « En revenant, » dit Elpis, « nous avons entendu dire qu'il était condamné au bannissement dans l'île de Chypre. »« À Chypre ?» s'écria Thaïs en riant. « Ce monstre dans l'île de la belle déesse de l'amour, avec ses milliers de temples, Eutrope à Amathonte, quelle ironie !»« Madame, un chambellan de l'empereur !» fit une servante annonçant le personnage. « Ah, il vous apporte votre liberté !» s'écria Thaïs, aussi joyeuse de cette nouvelle que Théon et Elpis. Noble Olympia, dit le chambellan en entrant, l'auguste empereur vous fait savoir qu'il a donné au préfet de Constantinople l'ordre de vous remettre aujourd'hui même le titre en vertu duquel il était votre tuteur, car l'empereur veut qu'à l'instant vous rentriez en pleine et entière possession de votre liberté personnelle, de vos biens et de vos revenus. Je remercie le gracieux empereur d'avoir généreusement songé aussitôt à sa servante, répondit Olympia, et j'aurai soin d'employer ma fortune de telle sorte que mon souverain n'ait pas à se repentir de me l'avoir rendu. « Qu'allez-vous faire maintenant ? » demanda Thaïs avec curiosité. « Servir Dieu ?» dit Olympia d'un ton plein de douceur.